Docteur Jones, je doute que vous ayez quoi que ce soit susceptible de me convenir.
Oh, quel joli caillou! Et comment on peut se passionner pour des morceaux de cailloux?
Mais ce ne sont pas de simples cailloux.
Quel genre de chantier sommes-nous?
Je suis sûr qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité.
Les pierres qui roulent.
Les pierres qui roulent.
Les pierres roulent. C'est l'heure des pierres qui roulent sur Radio Campus Paris.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce samedi 17 septembre, les files d'attente sous le soleil ou sous les parapluies.
Bien sûr, pour ce week-end, les journées du patrimoine.
Les 17 et 18 septembre 2016.
Des ouvertures exceptionnelles, des animations, des visites commentées ou des expositions.
12 millions de visiteurs attendus sur les sites, musées, monuments ou bâtiments publics dont certains ne se visitent pas habituellement.
Pendant deux jours, le patrimoine mis à l'honneur. Plus de 17 000 sites à découvrir.
Hey Christian, viens voir la toute petite porte, c'est des souterrains.
Non, non, ce sont les parties privées ici.
Bah, c'est la journée porte ouverte, ou non?
Bonjour, bienvenue.
Mais qu'est-ce qu'elle avait besoin de nous organiser cette histoire de journée porte ouverte à la con? En tout cas, René Guy, sachez qu'à partir de maintenant, et tant que je serai vivante, les portes du palais resteront définitivement et à jamais fermées au public.
C'est très pénible, j'en conviens.
Oui, excusez-moi, pourriez-vous me dire où sont les toilettes?
Elles existent depuis 1984 et durent deux jours par an.
Alors ça fait donc 2016 moins 1984, ça fait 32 fois deux jours, ça veut dire 64 jours.
Le 18 et le 19 septembre 2016 ont donc été les 63e et 64e journées du patrimoine et ont permis au public, une fois encore, de découvrir des lieux qui lui sont habituellement inaccessibles.
S'il fait étymologiquement référence à ce dont on hérite et est souvent perçu comme figé, le patrimoine est aussi, en fait, un bon moyen pour faire passer des messages et faire redécouvrir le passé.
Durant ces journées, visites et animations permettent de s'émerveiller mais aussi d'apprendre du passé pour mieux envisager le présent.
Les pierres qui roulent ont cherché à comprendre ce qui fait la spécificité des animations qui ont lieu autour des sites archéologiques durant ce week-end et vous proposent une petite balade sonore sur deux d'entre eux.
Alors, joie.
Plaisir, joie, prochain train.
Ah, c'est bon.
C'est par là.
Tout va bien.
On arrive.
Presque.
Un des inconvénients de l'archéologie par rapport aux grands monuments qu'on ouvre lors de ces journées, c'est qu'il faut souvent sortir de la ville pour aller à sa rencontre.
Sur avenue d'Hermorique, Vergeoire, Pontchartrain.
Troisième sortie.
Arrivée à route de Bazoches.
Bon, du coup, on va se mettre quelque part, on dérange personne. Hey, pas
mais
mal.
Mais il y a du monde.
On va essayer de se garder. Alors, on est arrivé.
Joie Pontchartrain, route de Bazoches, à 35 km au sud-ouest de Paris. C'est là qu'est fouillée depuis une bonne vingtaine d'années l'agglomération antique de Dieudorum et la ferme dite par Olivier Blin, archéologue à l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, et son équipe de bénévoles.
Bon, bah, j'ai déjà plus de piles.
Bonjour.
C'est la 2 ?
Non,
c'est... Théoriquement, on vient nous rendre visite.
Ah bon, bah non, c'est pas nous. C'est bon. Nous, on est une radio étudiante, Radio Campus Paris.
C'est sympathique, là.
Bah ouais. Et du coup, donc, je passe de stand.
Mais vous n'avez pas ramené la tenue de chantier, là, pour fouiller un peu ?
Non. Vous, vous êtes bénévole ici ?
Ah bah moi, j'ai commencé à fouiller sous la déviation en 95, début 95.
D'accord. Ah oui, donc voilà.
Tout début de l'histoire.
Oui.
Ouais. D'accord. Donc vous avez vu l'évolution du site. Moi,
ah
je me souviens pas de tout ça.
C'était la jungle, là-bas, c'était plus organisé. Mm. On a trouvé des trucs super.
Alors, on y trouve quoi, sur le site de Joie Pontchartrain? Des visites à l'air libre nous permettent d'en savoir un peu plus, tout d'abord, sur l'histoire du chantier.
Vous avez vu que sur le site, vous êtes nombreux. Vous êtes trop nombreux. Une partie donc, du site ici, à l'emplacement de la ferme dite, a été fouillée en archéologie préventive. Et depuis 10 ans, en fait, on a abordé en fait, le site ici en archéologie programmée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus contraint en fait, par des délais, on n'est plus contraint par des aménagements.
On est dans le cadre en fait d'une recherche scientifique pour aborder en fait des questions qui n'ont pas pu forcément être abordées pendant l'archéologie préventive. On avait des indices qui montraient qu'on avait des occupations mérovingiennes, probablement des vestiges d'occupation carolingienne. On a en tout cas des tombes qui ont été retrouvées de cette époque. Donc on pouvait supposer qu'à la fin de l'Antiquité, l'agglomération gallo-romaine avait tendance probablement à s'étioler, à s'effacer progressivement du paysage. Mais malgré tout, il est resté certainement un petit noyau humain sur le site. Et il était logique d'imaginer que c'est à l'emplacement de la ferme cistercienne, là où elle vient s'implanter au XIIe siècle, qu'avait perduré cette occupation, puisqu'on n'en a pas retrouvé véritablement de traces ailleurs. Et donc le programme archéologique qu'on a engagé il y a une dizaine d'années, c'était d'une part l'étude de la ferme cistercienne qu'on ne connaissait pas, jusqu'à l'époque moderne d'ailleurs, puisque c'est une ferme qui a fonctionné jusqu'au milieu du XXe siècle, avant d'être brûlée et d'être ensuite mise en carrière, mais en même temps aussi d'essayer de comprendre justement toute cette histoire entre la fin de l'Antiquité, 4e, 5e siècle, et les débuts du Moyen-Âge, 12e siècle, 11e, 12e siècle. On est sur une agglomération gallo-romaine, une agglomération dite secondaire, c'est pas une capitale de cité, et on est en même temps sur un site qui est au carrefour de voies très importantes, la voie qui va de Paris à Dreux, vers l'ouest de la France, la voie qui remonte de la vallée de la Loire, donc d'Orléans, jusqu'à la vallée de la Seine, probablement à Épône, puis ensuite un axe vers les Mureaux, de manière à traverser donc la Seine aux Mureaux. Donc on est sur un lieu qui est un carrefour et qui a toujours été un carrefour pratiquement durant toute l'histoire, depuis certainement les Gaulois jusqu'à l'époque moderne.
Et samedi on est là, alors faut entretenir, faut protéger les murs pour pas que la pluie les érode de trop. On a remonté les murs là, de l'ancienne mare de la ferme, enfin on voyait un truc.
Un site à la fois antique et médiéval, avec des traces différentes donc, qu'il faut apprendre à distinguer.
Le site est extrêmement riche et qu'on a de la chance que tout n'ait pas été bouleversé par les labours. On a 2000 ans au niveau stratigraphie en gros. Hein. Eh bien, la partie qui est à plat là, c'est une des rues de la ville gallo-romaine. Alors, vous voyez là le mur qui a été refait cet été donc par les jeunes de Rempart. Alors, on va passer de l'autre côté. Ce bâtiment-là donc, fait partie des plus anciens. Il aurait peut-être une origine carolingienne. On a réussi à mettre en valeur plusieurs niveaux et de gauche à droite, on est descendu dans le temps. Il y avait une cheminée dont vous voyez les montants en briques, hein, qui était recouverte de marbre. Au sol, des lambourdes en ciment avec il y avait un plancher qu'on a récupéré en partie. La façade du bâtiment, vous l'avez ici, c'était une façade avec 6 portes à linteaux. Et vous pouvez apercevoir dans la niche, là-bas au fond, un linteau. Mais à l'intérieur de ce mur, donc en épaisseur, on a un mur médiéval. Ce mur médiéval se retrouve coincé dans des constructions plus contemporaines, voire après le premier étage qui n'existait pas au Moyen-Âge. Ici, vous voyez les grosses pierres qui sont là à gauche. Eh bien, c'était un montant de porte. Il y avait un linteau au-dessus et derrière, d'ailleurs. Ici, au fond, la partie entourée et cerclée, c'est un four du XVIe siècle. Dans un texte, on a l'explication du changement de place du four. Il semblerait qu'il y ait eu un four au milieu de la cour, mais comme on n'a jamais fouillé la cour, pour l'instant, on n'a pas trouvé.
Pour les journées du patrimoine, les équipes de Jouarre Pontchartrain ont elles aussi voulu reconstituer des fours. Non pas du XVIe siècle, mais des époques gallo-romaines du site. Le premier est dédié à la paléométallurgie, dans l'espoir de tenter une réduction de fer.
Viens voir par ici. On va voir le feu à l'intérieur. On met de l'air là, tu vois, pour que ça fasse le feu. Et là, regarde à l'intérieur. Et regarde, là, on voit le nuage de chaleur. Là.
Vous êtes paléométallurgiste à l'INRAP ?
À l'INRAP, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on fait pour être paléométallurgiste ?
On fait de l'archéologie déjà parce que c'est en étant archéologue qu'on peut développer une spécialité. C'est-à-dire que je fais partie d'une équipe de recherche mixte, les unités mixtes de recherche qui s'appelle IRAMAT, l'Institut de recherche sur les archéomatériaux, dont une branche est le laboratoire de métallurgie et culture auquel j'appartiens. Donc on étudie la métallurgie. Je peux être accueilli régulièrement dans un laboratoire du CNRS qui se trouve dans l'enceinte du CEA de Saclay d'ailleurs, où il y a tous les appareils de mesure et d'analyse à ma disposition pour étudier justement tous les déchets et les produits de la métallurgie et établir les jalons de la chaîne opératoire présents sur un site archéologique, puisqu'il faut passer par plusieurs étapes successives, depuis le minerai jusqu'à l'objet, avec des techniques, des outils et des machines différentes à chaque étape. Il n'y a qu'en analysant les produits et les déchets qu'on arrive à savoir quel type de travail était réalisé, quel niveau de performance. Tout ça. Non, alors ça vient d'Île-de-France. C'est mon thème de recherche effectivement privilégié, voire exclusif. Le minerai vient du sud de la Seine-et-Marne. Mm-hmm. Ça, c'est un culot de forge qui vient de la ville nouvelle de Sénart, de Réau. Ça, c'est pareil, ça vient d'un site de sud Seine-et-Marne, d'à côté du minerai. Donc là-dedans, on voudrait avoir les déchets de ce minerai-là. Et ça, ça vient d'ici à côté. Okay. Ça, c'est une scorie qui provient, qui était ramassée lors de la fouille de la Millière, ici à côté, sur la commune des Ménules. Alors la scorie, donc, c'est ça, c'est le déchet. Hein.
Okay.
Alors c'est un déchet qui se forme à toutes les étapes de la métallurgie du fer.
Voilà. Et des fours comme ça, vous avez déjà eu l'occasion d'en construire d'autres ?
Moi, non. Mais j'en ai déjà vu et assisté. Ça n'a rien de particulièrement novateur. Sauf qu'on expérimente toujours, fait toujours un peu différemment pour expérimenter différentes choses. Donc moi, c'est un diamètre particulièrement restreint, par exemple, mais qui correspond à des choses que j'ai vues en four.
Et ça change quoi par rapport à votre pratique d'avoir construit un four ? Ça vous apprend des choses différentes ?
Ben voilà.
Ouais.
Déjà, je vais voir comment ça fonctionne, quelles sont les erreurs auxquelles on est confronté éventuellement, et si ça fonctionne bien, si j'arrive à bien faire la séparation entre la scorie et le métal, ce qui est toujours la principale difficulté finalement, et donc pour ça il faut qu'il y ait une inertie thermique maximale.
Et ici particulièrement sur le site, ça vous apprend quoi d'avoir reconstitué un four et d'étudier les métaux ?
On était sur une forme de carrefour commercial, et que les déchets que j'étudie, puisque j'étudie les déchets qui proviennent des fouilles d'ici, ont un aspect très particulier et sont associés à des déchets métalliques qui s'apparentent à des masses brutes et à différentes ébauches de barres en cours de travail. Et donc je pense que c'est ça qu'ils ont fait à partir de sites proches où il y avait des bas-fourneaux. On a retrouvé des scories comme ça aux alentours, dans la forêt de Rambouillet, à Arnouville-les-Mantes, et même plus au nord du département, comme un peu plus au sud, à Lourdes, à Chéron, tout ça, les vallées de la Remarde, de l'Orge et compagnie. Il y a plein de sites métallurgiques. Et donc je pense que potentiellement, le métal qui était produit là autour, dans un rayon de, je sais pas, 20 km, chez les Carnutes, parce que ça ne concerne que la cité des Carnutes, ici on est chez les Carnutes, ce métal brut, arriver ici pour être transformé en barre et commercialisé.
Et c'est quoi ça ? C'est quoi là ?
Ah, oups.
Bah là, il y en a plein, les crevasses. Il faut qu'on les rebouche ? On les rebouche avec quoi ?
L'argile, une fois que je réelle, essaie de compacter d'abord et de remettre en argile.
Donc là, on essaie de monter en température, mais c'est pas assez chaud.
Là, vous disiez qu'il y avait des crevasses, c'est dû à quoi ?
Ben, si la fumée s'échappe, non, c'est que ça communique avec l'intérieur et donc on a une perte de température qui n'est pas espérée.
Okay.
Donc c'est un défaut de fabrication.
Et des erreurs, on en fait un peu partout quand on expérimente. C'est normal et ça nous apprend les pratiques des anciens habitants du lieu. Sur le four reconstitué pour faire chauffer les céramiques, on retrouve les mêmes problématiques.
Il y avait un trou là,
c'était... Oui, mais par contre le problème c'est que c'est l'endroit où on avait fait le trou, ça avait fissuré, rappelle-toi.
Là on est en train de préparer la plaque de fermeture du four. Il y a toujours des erreurs dans l'expérimentation, parce qu'on ne sait pas a priori comment va réagir ni les matériaux qu'on utilise, ni les techniques qu'on imagine.
On va peut-être faire un peu de torchis. Et là on est où la deuxième boîte de torchis ?
Il faut vraiment aller, tu vois, en arc de cercle comme ça, là, ici aussi, là aussi.
Comme ça c'est pas mal, non ?
Là vous avez mélangé quoi ? De la terre avec de l'herbe ?
Des mains douces et des mains au chaud aussi. Parce que pour visiter les fouilles archéologiques sur les journées du patrimoine, il faut être curieux mais aussi courageux.
Je cherchais mon écharpe, j'en peux plus, je vais être malade sinon.
Une petite pause sur Radio Campus Paris, on revient tout de suite après.
tu nous réchauffes. Soleil, tu nous rembourses. La marée monte, château fort, et lui sourit avec.
Plusieurs années sur le site,
ouais.
Je crois une dizaine d'années,
ouais.
Et cette année il a été restauré par quelques étudiants bénévoles et des bénévoles en vue justement de l'utiliser pour les journées du patrimoine.
D'accord.
Afin de faire une cuisson de céramique à l'intérieur.
Donc c'est une reconstitution ?
Oui, en quelque sorte, oui. C'est une reconstitution d'un modèle de four gallo-romain,
ouais,
qui a été fouillé. Et donc on a appliqué le plan d'un four qui a déjà été fouillé en l'agrandissant un peu et en faisant quelques modifications pratiques.
D'accord.
Pour le moment on fait un peu de feu et on commence à charger en combustible,
ouais,
pour le faire sécher, pour qu'il soit bien fonctionnel. On enlève, okay, l'humidité et ensuite on mettra les céramiques,
ouais,
on va le blinder de combustible,
ouais,
et on va faire monter la température très haut.
Okay.
Afin de produire, alors il me semble que cette année on fait de la céramique métallescente qui doit avoir l'apparence d'un objet métallique.
D'accord.
Quasiment.
Okay.
Il y a un potier qui nous a fait des céramiques,
ouais,
et enfin il nous a fait des poteries et nous on va faire une cuisson.
D'accord.
Pour pouvoir en vendre au public.
Attends, il faut qu'on monte, on est à 28 degrés, dis donc.
Merde, on a tout raté.
Entre 35 et 40 pour les poser.
Ah bon, ah bon,
ouais. Sinon, déjà premièrement, on ne peut pas mettre les mains dedans. Je vais mettre les céramiques dans le four. Donc,
de toute façon, tu mets des gants après.
On va les mettre dans le four, non. On va remplir, on va charger le four, on va le fermer et on va lancer la cuisson.
Ok. Je vais monter.
Tu apportes les grises aussi?
Ouais, les grises et puis celles qui sont encore claires, tu sais. Et ça, c'est pas cuit.
T'en veux encore ou t'as plus de place?
De toute façon, on va tout mettre, on va tester.
Le site propose également des ateliers céramologie, la présence d'un potier et des ateliers poterie pour les plus petits.
On essaye de tenir un atelier poterie pour montrer aux enfants comment étaient fabriquées les pots et ce genre de choses pendant l'Antiquité.
Okay.
Donc par exemple, là c'est un montage au Colombin.
Ouais. Vous êtes tous étudiants ou...
On est tous étudiants en archéologie en fait.
Paris 1 et Paris 4.
Il y a des masters, il y a des licences. Après, on aurait pas mal à avoir fouillé cet été sur le site et être venu. Et après, il y a d'autres bénévoles qui sont...
Et vous faites tous partie du coup de l'association.
Oui. Ça ressemble à ta chambre.
Dans l'été, il y a des jeunes qui viennent, alors une partie pour fouiller et une partie pour reconstruire. Par exemple, on a reconstruit les murs pour refaire la chapelle. Il n'y avait plus grand chose.
C'est la session rempart qui s'en occupe aussi, c'est ça?
Oui. Donc l'été, moi je ne suis pas là parce que avec ma femme, on prend quand même un peu de vacances. Et puis après, il y a les petits-enfants qui arrivent. Ce sont des grands, alors justement. Les petits, c'est très, très accaparant parce qu'il faut s'occuper d'eux quand ils sont petits. Ouais. Mais quand ils sont grands comme les nôtres, il y a des tas d'activités, qui des visites de musées ou n'importe quoi qui les intéressent.
Et du coup, vos petits-enfants viennent sur le chantier aussi
un jour, on vient dire bonjour aux copains en faisant un tour. Mais c'est uniquement pour leur montrer ce qu'on fait et ce qu'on a quand c'est débarqué.
Ça s'appelle comment le dallage? Des tomates. Tomates, c'est pas des tomates.
Mais il fait le malin parce qu'il a la chemise là.
Vous êtes étudiant?
Oui. Pour la plupart, on entre en master 1. Et elle, en L3. Et elle en master 2. Non, mais elle n'y connaît rien.
C'est pas rien là.
Ah oui, ça c'est Paris 4, donc ça, ça compte pas.
Paris 4, Paris 1. Du coup, vous venez tous les samedis, vous aussi, ou juste...
Les samedis, on peut dans l'année, et en fait, on... on a tous fouillé cet été pour la première fois.
Il y avait une campagne de prospection en février. Dans la forêt, là, un peu.
Ouais. Ah, et toi, tu étais là un peu avant.
La terre se fouille, mais elle s'entretient aussi. On trouve également un jardin cistercien à Jouarre-Pontchartrain, reconstitué à partir d'études botaniques effectuées sur le site.
C'est un jardin médiéval.
Ouais.
Il y a des études environnementales qui ont été faites par un scientifique de l'INRA qui a recensé et inventorié toutes les espèces qui poussent sur le site. Et donc on a reconstitué ces espaces sous la forme de carrés, donc avec des jardins clôturés par des plessis qui sont vraiment la technique traditionnelle médiévale. Des perches de noisetiers ou d'osiers qui sont tressées pour faire des palissades. Donc on a le carré sauvage, une panoplie de plantes qui poussent sur le site et qui ont des vertus assez particulières. On a par exemple la consoude qui servait pour les plaies à faire cicatriser. Ou
C'est des choses que vous avez trouvées ici et directement replantées?
Voilà,
ou bien
c'est
vous...
ça.
Ah oui.
Oui.
D'accord.
Oui.
Vous n'êtes pas allé chercher des plantes
ailleurs? Non, non, non. Exception faite de l'euphorbe sylvatica,
oui,
qui est une espèce différente de l'euphorbe, l'euphorbe qui pousse ici.
Ah oui, c'est celui-là.
Et ici, c'est plus l'espace herbularium, où on a des espèces qui ne sont pas présentes sur le site, mais qui avaient des vertus et qui étaient cultivées au Moyen-Âge pour soit médicinales, soit aromatiques.
Et donc tout ça, on connaît l'utilisation de ces plantes par des écrits, des textes?
Alors, par le Capitulaire de Vilis, notamment. D'accord. Qui est un écrit qui date de 595 sous Charlemagne, qui recense la plupart des plantes qui étaient utilisées à cette époque.
Avoir un jardin, c'est bien pratique, surtout pour cuisiner. Pour les journées du patrimoine, le site de Jouarre-Pontchartrain proposait cette année des recettes du Moyen-Âge.
Bon, je vais aller m'acheter un petit gâteau.
Voilà, oui, profitez-en.
Merci.
À l'orange. S'il vous plaît.
Ah, oui, on vend des gâteaux du Moyen-Âge. Moi, je parle pour le micro,
oui,
moi.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est de la nourriture...
Moyen-Âge, les recettes sont là et...
C'est pas du pain d'épices, en fait, hein?
Alors,
ça peut pareil.
Si, maintenant, on appelle ça le pain d'épices, mais c'est le gâteau aux épices. En fait, ça s'appelait, ils appelaient ça à l'époque,
Boisché. C'est vous qui cuisinez?
Bah, on a toutes cuisiné.
Cuisiné? D'accord.
Mais c'est du sucre. Cette tarte-là qui est la dariole, les oublis et le pain aux épices.
Le mistembec, c'est quoi?
Des sortes de galettes.
Ouais.
Enfin, un peu genre blinis quand même. Hein.
Ouais.
Un petit peu. Ah ouais.
Le mistembec se fait ainsi. Prends de la pâte de froment levée, autant que tu veux, un peu d'abinon dissous dans de l'eau tiède, et tu le délais avec de la pâte jusqu'à consistance de sorbet. Tu la verses dans une écuelle percée de trous en son fond et ses côtés, et tu la fais couler dans de l'huile bouillante ou de la graisse de porc en lui donnant diverses formes à ton gré. Quand les beignets sont cuits et croquants et encore assez chauds, Tu les plonges dans un sirop de sucre ou de miel et tu les retires aussitôt.
C'était plutôt, il le faisait plutôt salé. Parce qu'en fait, en dehors du miel, on ne sucrait pas.
D'accord.
Au Moyen-Âge. Ou autrement, si, ce qu'il faisait, c'est aussi, alors ça, il y a la recette aussi. C'était les poires à l'Hippocras. Donc, l'Hippocras, c'est une boisson alcoolisée.
Donc là, du coup, qu'est-ce que vous avez?
Eh bien, regardez les recettes, si vous voulez, ou bien vous regardez là. Hein, c'est fromage blanc, œuf, et puis là, il est parfumé à l'orange. Hein, fromage blanc, c'est fait à la ferme des Coubertins, figurez-vous. Ils font des trucs naturels extrêmement bons. Là, il y a un petit peu parfumé d'amandes, je crois. Ça, c'est une tarte aux pommes raisins, qui doit être très bonne. Dans les petits trucs comme ça. Les chaussons aux pommes sont bien.
Et ça, c'est typique, alors?
Oui, puis ça aussi, maintenant. Du coup, il n'y a pas beaucoup de sucre. Ça qui manquait au Moyen-Âge. Vous voyez, il y avait du miel. Alors, il y a un pain d'épices au miel, mais là, il y a du miel.
Ouais, ça doit être bon, ça.
Mais par contre, là, ça manque un peu de sucre, certaines choses.
Sacristain, abaisser la pâte feuilletée de façon à obtenir...
Oh, c'est très compliqué, les recettes, ça. Moi, je les ai lues, hein. Les ingrédients ne sont pas extraordinaires, mais c'est travaillé.
Non.
Oui, puis je crois que j'ai mis un peu beaucoup d'épices, à mon avis. Je ne sais pas, je ne l'ai pas encore goûté.
C'est bon.
Pas
d'épices,
ça marche. Oui, parce que j'avais...
Moi, je veux bien en goûter un petit peu.
Ça va aller.
Oh, je ne sais pas si c'était la même taille, la même forme.
Non, c'était plutôt... Il faisait pour la famille, hein, parce que... Ah bah les recettes là vous pouvez
c'est
les prendre hein, celle-ci hein. Oui.
Les recettes.
Merci beaucoup.
Ouais, merci. Bonne journée mesdames.
Sortir un peu de Paris.
Exactement. Et vous habitez dans le coin?
Ouais, on habite on habite un peu plus loin, côté de Maule. Donc que je connais bien les coins, mais je ne connaissais pas ce site-là. Donc,
Et vous le faites tous les ans d'aller
tous les ans, donc c'est la première année que je vais dans une journée du patrimoine, parce qu'en fait, j'évite les journées du patrimoine.
Parce qu'il y a trop de monde. Ben voilà.
Donc d'habitude, j'y vais pas. Et puis là, bon, on ne faisait rien avec mon mari, les enfants, ils sont partis. Donc on a dit, allez, tiens, on va se faire une journée.
Ben,
et
puis là, ça va, il y a une bonne affluence, mais ça reste.
Oui, il n'y a pas trop de monde, ça va. C'est parce que moi, les trucs où il faut faire la queue 3 heures...
C'est
nous on fuit les endroits où il y a du monde.
Vous connaissiez un peu de l'archéologie?
Oui, mais j'en ai fait justement. Ça me rappelle quand j'étais étudiante aussi, j'ai fait de l'archéologie, mais moi c'était de l'archéologie préhistorique. Je travaillais sur le site de Bougon en Charente. Donc bon, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, les techniques sont les mêmes. Mais c'est amusant, mais ça fait drôle de voir comme ça des jeunes. Et puis de se dire qu'on a fait la même chose quand on était. Mais c'est une expérience intéressante à faire. Moi, mes enfants, ils n'ont pas voulu, mais j'aurais bien aimé qu'ils fassent un stage au moins pendant les vacances pour voir ce que c'était que de faire de l'archéologie, parce qu'on apprend plein de choses finalement.
Puis c'est une ambiance aussi.
Ouais, puis nous, on s'est super bien mariés. On était tous entre jeunes, chapeautés par trois adultes qui s'occupaient que d'archéologie. C'était marrant, quoi. C'était marrant.
Vous avez beaucoup de gens du coin, du coup, qui viennent?
Là, oui.
Ouais.
Oui, beaucoup. Plus... Enfin, le coin, non, entendons-nous, le 78.
Hein. Ouais.
C'est fini, le coin. Les gens,
Ça dépend.
Il y a Moulette, Garancière et tout. Non.
Le dimanche, si, on a des gens du secteur. Là, j'étais en train de discuter avec une personne.
C'est tout le 78 aujourd'hui.
Ouais, c'est ça.
Là,
hein. Plus que le 75.
Ah oui, ça n'a rien à voir.
Ah ouais.
Ça n'a rien à voir. De Paris, on va avoir, sur deux jours, on va avoir 20 personnes.
Ah ouais.
Sur 300 ou 400.
Ah non. Bon.
On a la Houdan, on a Saint-Arnoul, Rambouillet, Saint-Cyr, je ne sais plus où dans le 60.
Les communes environnantes, Montfort-la-Maurie, Savary, hein, d'une année sur l'autre.
La dernière, on a eu, 450, je crois, il y avait quelque chose au Ménil.
Ah oui, c'est vrai.
Alors ça a fait perdre au moins 80 à 100 personnes. On a déjà 130 ou 100, je sais plus, 125 depuis qu'on a ouvert, ce qui est pas si.
Surtout le samedi après-midi où les gens font leurs courses. C'est demain on aura du monde s'il fait beau. Ils ont annoncé t'as la météo? Moi j'ai vu ce matin la météo qui ferait du soleil, alors je ne sais pas.
On a une copine qui vient de Fontainebleau où elle habite et où elle ils en viennent partout hein. C'est moi le plus proche, j'habite pour Chartrain. Je suis le seul.
Ah ouais.
Je suis le seul.
Pratique. Très pratique.
Je suis le seul. Oui. Bon, allez, bonne journée.
Merci beaucoup.
l'archéologie nous fait voyager. Des Yvelines aux Val-d'Oise, les expériences sont diverses. Le deuxième jour, c'est à Louvre que nous débutons les journées du patrimoine, au musée Arkéa.
Donc là, Orville. C'est à côté du musée Arkéa. C'est à Louvre. Chemin d'Orville. Nous n'allons pas au Louvre, nous allons à Louvre.
À Louvre.
Bonjour. Vous venez faire l'animation, donc testez vos connaissances en archéologie. Je vous donne un petit livre à chacun. Avec ça, en fait, dedans, vous allez voir, vous avez 6 missions à accomplir. On va dans l'exposition, on présente toutes les spécialités de l'archéologie. Parce qu'en fait, il n'y a pas un archéologue, il y a plein d'archéologues différents. Par exemple, il y a des archéologues qui s'intéressent uniquement aux céramiques, aux poteries. C'est celles qui sont là-bas, et tout simplement, on va vous demander de remonter une poterie comme le font les spécialistes de la céramique, qu'on appelle les céramologues. Vous allez pouvoir ainsi deviner à quelle période appartient cette poterie. Ensuite, vous allez pouvoir aussi étudier les ossements d'animaux, l'archéozoologue, qui est juste là-bas, et deviner à quel animal appartiennent les différents os qui sont là-bas. Vous allez pouvoir aussi vous intéresser à la carpologie, c'est les graines. Vous intéresser aussi à la topographie avec la lunette de chantier. Et enfin, vous intéresser à l'étude des pierres là-bas et l'étude des pièces un petit peu plus loin. Le but du jeu, c'est de passer à peu près à chacune des étapes. Vous n'êtes pas obligé de les faire dans l'ordre. Si vous en avez marre, on n'est pas obligé de les faire toutes non plus. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour s'embêter non plus, hein.
De très nombreuses découvertes archéologiques ont été réalisées dans le nord-est de Paris à l'occasion de la construction de la Francilienne et de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Pour les mettre en valeur et les présenter au public, la communauté d'agglomération décide de construire un musée qui ouvre ses portes en 2010. C'est le musée Arkéa à Louvre. On peut y découvrir l'histoire de la région dans une exposition permanente très bien construite et en apprendre davantage sur l'archéologie grâce aux expositions temporaires qui se succèdent tous les 6 mois environ.
Qui parle des métiers de l'archéologie et qui du
coup. À votre avis, il y a une fréquentation un petit peu différente ce week-end du.
Oui, parce que du coup, il y a plus de monde que d'habitude.
Un week-end classique, on va dire, c'est peut-être 10-15 personnes. 20 personnes dans un bon week-end. Là, on est à très exactement 381 personnes.
Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les gens se sont plus sensibles? Est-ce qu'il y a une communication?
Il y a plus de communication et du coup, les agents profitent pour créer des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Par exemple, là, pour les ateliers, c'est quelque chose qu'ils proposent pendant les vacances scolaires, mais c'est sur inscription. Ça, c'est pas le même fonctionnement. Là, c'est vraiment en continu toute la journée. La nuit des musées, ils avaient fait l'atelier Cap-Plage Géant. On avait eu pas mal de monde aussi. Juste pour cet atelier.
Ouais, d'accord. Là, pour l'agent du patrimoine, il y a plus de jeunes aussi au niveau du type de fréquentation.
Famille. Ouais, famille et seniors.
Pourquoi ça veut dire premier? Donc, c'est un premier type d'histoire. C'est-à-dire, en fait, les sociétés qu'on connaît en Europe, elles n'avaient pas encore les textes. En revanche, dans le sud de l'Europe, il y avait des Romains.
Donc en fait, ça pousse beaucoup moins parce qu'il n'y a pas d'humidité. Donc en fait, si tu veux, là, ça va être, elles vont être moins hautes que ici, par exemple, il y a des fossés, il y a de l'humidité qui reste. Donc ça va s'inclure, si tu veux.
T'as vu, ils ont trouvé ça. Il y a rien dans ces pieds-là, je crois.
Bienvenue à Arkéa, l'archéologie en pays de France. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce territoire qui a donné son nom à notre pays et d'une grande richesse archéologique.
Parce que moi j'ai regardé sur le site internet ce qu'il y avait à faire dans la région.
Ouais. Intéressé pour la proximité ou pas?
Exactement, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Vous voulez pas aller trop loin ou dans un lieu où il y avait trop de monde, voilà. Comme Versailles ou compagnie, ou Paris.
Donc c'est ça que 3 heures de queue.
Exactement. C'est super intéressant. On passe à côté de choses.
Ouais.
C'est ce que je disais. En bas, il y a une sandwicherie, alors qu'il y a peu de sépultures. Ce qu'on aime, c'est le côté local, c'est les villes. Quand ils nous parlent d'une ville, avant, il y avait ça.
C'est ça, comme vous y êtes, effectivement.
Exactement.
Ouais.
Et c'est tout ce qu'ils faisaient, tout ce qui s'est passé, que ce soit des bijoux ou de l'armement. Il aimait l'histoire aussi, de façon générale. L'histoire des peuples, comment ils ont évolué, qu'est-ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont créé, et tout ce qu'on a pu hériter de... de l'histoire. Et qu'il y a des choses qui se retrouvent même 500 ans après.
Là, on est sur 2000
ans. Ouais, 2000 ans, ouais. 500 ans. Et comment ils réussissent à vivre sans trop mourir jeune.
Non, et le fait que ça se soit renouvelé à ce point-là, et qu'on a plus de traces, en fait, plus du tout d'installation. On voit partout,
exactement.
On trouve des traces d'anciens bâtiments, puis là, 500 ans plus tard, il n'y a vraiment plus rien du tout. Enfin, voir comment, en effet, ça arrive à se renouveler et bouger, moi, à chaque fois, je trouve ça vraiment impressionnant.
J'ai vu le panneau qui accède à l'autoroute du musée Arkéa, et puis on était souvent passé devant, on ne s'est jamais arrêté. Ouais. Donc on a profité de cette journée pour le visiter. On essaie d'en faire tous les ans.
Donc vous faites essentiellement l'archéologie ?
Pas spécialement, mais on aime bien, on s'y intéresse. Oui, non, ça ne nous intéresse pas, puisque déjà il y a énormément de queues, et puis en dehors du fait que c'est un musée, c'est pas aussi intéressant que ça. Là, c'est le quotidien, donc c'est plus intéressant. C'est plus accessible.
Les équipes de l'INRAP découvrent la girouette de l'ancien château d'Orville à l'occasion des fouilles programmées le long de la Francilienne. Parmi les multiples découvertes sur ce site, la girouette de la Tour Porte est un moment fort pour les archéologues qui va notamment permettre de reconstituer une partie de l'histoire de ce site particulier. Connu depuis les années...
À quelques centaines de mètres du musée se trouve le site du château d'Orville. Assiégé et détruit pendant la guerre de Cent Ans, ce château est fouillé par les archéologues depuis 2001 et géré par les équipes du musée Arkéa de Louvre. Nous nous y rendons pour assister à une des visites du site organisées pour les Journées européennes du patrimoine.
Donc là...
Tu vas commencer dans pas longtemps ?
Quand tu veux.
Le site du château d'Orville se trouve au bord de la Francilienne et non loin de l'aéroport de Roissy.
Alors ce site, gardez à l'esprit que sa physionomie est totalement modifiée par rapport à la période médiévale. C'est-à-dire, vous avez des évolutions qui sont très récentes, qui sont celles de la réalisation de la Francilienne, qui a en fait surélevé le champ. Alors quand on a réalisé les bassins d'orage de la Francilienne, on a rajouté 3-4 mètres de calcaire et puis de la végétale par-dessus sur le champ qui est attenant au site. Donc maintenant le site paraît encaissé, alors qu'il était dans la continuité du terrain. Les paysages que vous connaissez ne sont pas des paysages immémoriels, ce sont des constructions, ce sont des choses qui se sont formées, fabriquées quelquefois avec des évolutions très récentes. Il s'était entouré de fossés et d'une muraille, d'une courtine. Là, on est dans le courant du 12e et au 13e siècle. C'est du point de vue militaire, ça reste quelque chose d'assez secondaire. On n'est pas sur l'idée d'une localisation qui est liée à quelque chose de militaire, à une éminence, etc. Néanmoins, vous avez quand même une localisation spécifique à la fois du premier habitat, de l'habitat du Haut Moyen-Âge, et de ce site. En fait, la clé de compréhension, elle tient dans l'étude des chemins. D'accord ? Vous connaissez la RN17, RN2 ? Ça, c'est une petite variante de la route des Flandres, mais qui a une vertu énorme, indépendamment qu'elle passe par les vallées, c'est qu'elle va directement sur un lieu majeur capital à partir de l'époque mérovingienne, qui est l'abbaye de Saint-Denis. Vous arrivez mieux à comprendre que le château d'Orville a une fonction stratégique, et notamment pendant la guerre de Cent Ans. Parce que la plupart des gens, du commerce, etc., les charrois, etc., passaient par là. Il va se passer quelque chose dans l'histoire du château d'Orville, au XIVe siècle, qui est lié à une acquisition par une famille de conseillers royaux, la famille Daunet, notamment par un personnage qui s'appelle Robert le Gallois Daunet, qui est conseiller de Charles V et de Charles VI. Donc, quelqu'un d'assez proche donc, du roi de France, et qui va faire, comme de nombreux conseillers royaux, à la demande de Charles V, puis de Charles VI avant qu'il devienne fou, renforcer et rendre apte à la défense des forteresses. Donc je vous ai dit acquisition par les Aunais, 1374, autorisation de fortifier, 1385, et 1438, destruction totale du château. Donc une durée de vie assez courte. Au moment brutal, on n'en a que quelques lignes dans les chroniques, c'est le siège de 1438, où les Français viennent investir le château d'Orville, et on sait par l'archéologie que c'est brutal, qu'il y a un siège avec de la sape, de l'effondrement brutal des fossés, après une démolition totale. Alors, c'est pas très clair dans les chroniques, il semble qu'il y a une composition, c'est-à-dire à un moment donné, on fait une transaction et les Anglais se barrent, mais on sait par l'archéologie que c'est après une phase quand même assez brutale de siège et de destruction. Et la phrase de conclusion qui est dans les chroniques, notamment les chroniques d'Artus de Richemont, c'est « Et fut Orville abattu puis démoli ». C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on fait au Moyen-Âge, où tout coûte cher, notamment la pierre, le métal, tout coûte cher, tout ce qui est travail humain coûte très cher et récupéré systématiquement. Là, c'est tout le contraire. Pour le grand plaisir des archéologues, tous les blocs, tous les édifices, en fait, tout ce qui est à un mètre de hauteur, sur les grands édifices et dans le fond des fossés, le métal compris, fait qu'on a retrouvé et présenté à Arkea des éléments du pont-levis, de chaînes du pont-levis, l'axe en bronze du pont-levis, etc. Et énormément de choses jusqu'au sommet, la girouette. Voilà, donc c'est cette histoire qui fait que finalement, un édifice secondaire, en étant renforcé, a sorti un peu la tête du lot et a fini. Ce qui fait qu'avant la fouille de Milan, on savait bien qu'il y avait le château, on voyait vaguement la trace des fossés, mais on imaginait l'édifice secondaire du 13e, mais pas du tout ce qu'il y avait, l'édifice puissant du 14e siècle. Il était totalement méconnu et c'est le travail de fouille programmé après avoir fouillé l'habitat du Haut Moyen-Âge sur la Francilienne qui nous a conduit avec des étudiants chaque année, avec des petits financements, l'aide du musée de Louvre qui s'appelle maintenant Arkea, l'aide de la DRAC, etc., l'aide de mon institut. On a réussi à sortir un peu cette histoire dont on va continuer à regarder les éléments. Donc vous voyez cette base. On va aller voir le deuxième ouvrage bas.
Mais il n'y a pas qu'un château sur le site d'Orville. Il y a aussi des bâtiments plus anciens qui datent de la période carolingienne. Sauf que ceux-là n'ont pas été retrouvés en fouille, mais reconstruits par les archéologues.
Donc je vous propose de faire un petit saut dans le temps maintenant. Et on va aborder la question de l'habitat du Haut Moyen-Âge. Lorsqu'on a entrepris la fouille programmée du château d'Orville avec des étudiants, lors de la campagne 2001 puis 2002, on a fouillé en grande partie la plateforme, et on a étudié la suite de l'habitat du haut Moyen-Âge. Une sorte de village qui s'étirait comme ça, mais qui n'était pas Louvre. Lorsqu'on a réalisé donc ces fouilles, on avait trouvé un fond de cabane à l'emplacement de la petite cabane que vous voyez là, qui se situait bien sûr sous les niveaux du château, à une époque antérieure. Et l'intérêt de cette petite cabane, c'est qu'on avait non seulement les trous des poteaux, on avait aussi les trous des piquets. Et ça nous donnait une information très précise sur au moins une élévation de quelques dizaines de centimètres. L'objectif a été de travailler ensemble et de faire une reconstruction de ce bâtiment. On est allé en forêt, on a obtenu l'ONF qui nous donne sur pied quelques arbres. On les a coupés, on les a ramenés ici, on a fait les assemblages au sol. Faut imaginer, hein, vous faites, c'est comme les pans de bois, vous faites au sol et vous levez. La seule différence, c'est qu'on n'a pas utilisé ce que tout bon carolingien pouvait avoir, c'est une paire de bœufs. On n'avait pas de paire de bœufs, donc on a utilisé un palan. D'abord une toiture en chaume. Le bâtiment a été incendié par des petits voyous de Goussainville. On a décidé de travailler sur une reconstitution alternative, une toiture à quatre pans. Et surtout, on a décidé de faire quelque chose de particulier, une couverture en bardeaux. Il a fallu, avec l'équipe de fouilleurs, c'était essentiellement des stagiaires de l'université, qui certains revenaient plusieurs années de suite, d'autres arrivaient. Il y en a qui fouillaient, il y en a qui étaient en forêt avec mon collègue Frédéric Epo, avec le coutre, le fameux départoir qui permet de fendre. Ce travail de fendage a été très long et a permis, sur 2 ans, de réaliser la totalité de la toiture. Bien sûr, vous avez d'autres modes de couverture qui semblent évidents. Ici, on le sait par l'étude des grains, on sait qu'on cultivait le seigle. Donc vous aviez probablement des toitures en paille de seigle. Pour les reconstitutions qu'on a faites, on a choisi une autre troisième option, qui est le roseau. Alors, on est dans une zone marécageuse qui accrédite, rend possible l'existence d'utilisation du roseau. Puis on a essayé différents types de fibres végétales, du chanvre, du lin, etc. Par exemple, pour ce bâtiment, c'est contraint à essayer des liens qu'on a nous-mêmes taillés avec de la ronce. Et on a testé différents types de faîtage. Donc on teste différentes, au fur et à mesure, on teste différentes méthodes. Là, on a utilisé des bardeaux en restauration. Là, on a utilisé donc des bottes de paille ailées. Alors, on a également utilisé les bâtiments, ce pour quoi ils étaient faits. C'est-à-dire, dans ce bâtiment, vous avez un stockage de grains en sac, qui a été complété pendant quelques années. On a stocké également des grains dans des silos enterrés. Je ne vais pas pouvoir vous faire monter dans le grenier pour des raisons de sécurité. Bien que la sablière ayant été changée l'année dernière, celle-ci, on a changé cette sablière. Donc sachez bien, quand on travaille sur la question de la durée de ces bâtiments, c'est que le mode de fabrication fait que ces bâtiments sont en kit. Si vous décidez de conserver un bâtiment parce que vous n'avez pas de raison de le changer, même s'il est un peu vieux, vous pouvez changer, y compris une sablière, telle ou telle partie. Vous pouvez renforcer. Il faut arrêter avec l'idée que ces constructions sont des constructions légères qui ne durent pas longtemps. On a travaillé sur un bâtiment entre guillemets cave. Cellier ou loge. Là, je vais vous l'expliquer, on va rentrer dedans. Alors, ici, c'est nous qui l'avons creusé. Cette structure n'existait pas ici. On avait une structure analogue sur la partie fouillée en archéologie préventive à l'emplacement de la Francilienne, pas du bassin, du 9e siècle. Pendant les journées de canicule, c'est vrai que c'était très appréciable de rentrer ici. que vous avez un contraste absolument incroyable qui en fait va vous donner la clé de compréhension de la fonction de ce bâtiment. Il suffit d'excaver le sol. Vous arrivez à finalement maintenir à la fois une hygrométrie relativement stable et une température avec très peu de variations. Donc on est tout à fait en complément du grenier qui lui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques pour un autre type de conservation d'aliments. Et là, on va penser aux deux principaux aliments qui nécessitent cette conservation, c'est-à-dire le fromage et le vin. Alors, la reconstitution, elle s'est basée sur l'implantation des poteaux, la forme de la cabane qui vous donne la partie où vous circulez. Et en ce qui concerne l'élévation, ça a été une réflexion assez complexe. On a tellement utilisé beaucoup des recherches ethnographiques qui ont été menées par mon collègue Frédéric Epaud. Alors, combien de temps pour réaliser ça? On a fait le gros du trou avec une pelle mécanique. Et ensuite, on a fait à la main, on a creusé les poteaux. Et en même temps, en forêt, on est allé acquérir tout ce qui a servi à faire les poteaux de chêne et le bois qui a servi à faire les chevrons. Ça a été la première année. La deuxième année, on a fait le lattis et l'année dernière, on est réintervenu sur la toiture parce qu'on a vu juste une petite effraction et que ça se serait dégradé fortement si on n'était pas intervenu. Alors sachez une chose, c'est qu'il ne s'agit pas de faire des reconstitutions, puis de se tailler, puis de dire voilà, c'était des bâtiments entretenus à l'époque, les gens y vivaient. S'il y avait le moindre problème, c'est pareil, les intrusions de bestiaux, les petits trous là, sur les bords, j'ai dit qu'il faut les boucher. À chaque fois, il faut empêcher les bestiaux de venir. Pour la suite, ce que j'appelle de mes voeux, c'est de reconstituer un bâtiment pour terminer le pôle avec le grenier, le bâtiment cave, et construire un petit bâtiment d'habitation qui permette ensuite de faire aussi de l'expérimentation à l'intérieur, de visiter l'intérieur. Voilà, c'est un petit peu des projets pour la suite.
Ne jamais s'arrêter, expérimenter, réexpérimenter, rechercher. C'est peut-être cela, au fond, la particularité du patrimoine archéologique. Il n'est en rien figé, car sa découverte nous donne envie d'en savoir toujours davantage.
En somme, mieux on le comprend, et plus on comprend qu'il nous reste des choses à comprendre. Un immense merci à Olivier Blin et François Gentilly, tous deux archéologues à l'INRAP, ainsi qu'aux bénévoles du site de la ferme Dite et du site d'Orville, et toute l'équipe du musée d'Archéa de Louvre pour leur temps, leur accueil et leur enthousiasme. Les pierres qui roulent vous donnent rendez-vous le mois prochain, toujours le jeudi, à 20h. Et le 21 octobre, on vous invite à découvrir notre petite sœur, On révise nos classiques, un vendredi par mois à 18h55 pour parler d'histoire, d'archéologie et de ses représentations au cinéma. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.